Bonjour tout le monde. Alors, je vais parler dans 2 Corinthiens quelque chose, deux ou trois aspects qu'on trouve dans l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qui concerne notre témoignage. Donc, si voilà, le titre pourrait être notre témoignage. Il a été lu tout à l'heure que Jésus est l'image du Dieu invisible. On trouve ça dans Colossiens, puisque Emmanuel l'a lu tout à l'heure, mais on le trouve aussi dans 2 Corinthiens, qu'il est l'image du Dieu invisible. Et c'est le premier aspect que j'aimerais développer ce matin avec vous, c'est que nous sommes comme un miroir. Et nous devons être sur cette terre comme un miroir. C'est un des aspects de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Une des images de la vie chrétienne que l'on doit saisir ici. Et donc le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il reflète fiablement les rayons lumineux. Et c'est ça qui est extraordinaire, merci, avec le miroir. C'est que contrairement, c'est que la matière qui se trouve derrière la vitre, eh bien, reflète les rayons lumineux intégralement. Voilà ce qui fait que l'on peut voir son image dedans. Et ce que je me dis, c'est, premièrement, ça parle sur le fait de refléter ce que l'on regarde, ce que le miroir regarde déjà. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Parce que nous reflétons, si nous sommes un miroir, bien sûr c'est une image, c'est le cas de le dire, mais ce n'est pas une doctrine fondamentale de dire ça, mais je veux dire c'est une image qui peut être appliquée pour nous en tant que chrétiens. Si nous sommes un miroir, alors nous reflétons ce que nous regardons, ce vers quoi nous sommes tournés. Et j'aimerais que l'on réfléchisse sur ce que nous regardons, ce que nous contemplons et ce vers quoi nous sommes tournés. Est-ce que ce matin, comme il a été dit, nous sommes dans la présence de Dieu, et pas seulement ce matin, n'est-ce pas, mais tous les jours, dans la présence de Dieu, devant lui, devant sa face, à le chercher. Je veux dire que chez moi, il y a besoin régulièrement d'un renouveau à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui s'estompe. Je me rappelle des périodes de ma vie où ça renaissait, et il y avait vraiment ce désir intense de trouver la communion de Dieu et d'être tourné vers Dieu, n'est-ce pas, en permanence. Il y a tellement, comme il a été dit aussi, tellement de distracteurs. Tellement de choses qui peuvent nous attirer. C'est la société qui évolue comme ça, on ne peut rien faire, n'est-ce pas, contre ça. On ne peut pas faire quelque chose contre l'évolution de la société. On ne peut pas faire quelque chose contre l'évolution de la technologie, de Internet, qui nous appelle constamment. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Vous entendez ça, l'ordinateur qui vous dit ça? J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Tiens, tu penses à ça? Ben écoute, il y a une information nouvelle là-dessus. Et on est toujours attiré, n'est-ce pas, par ceci ou cela dans la société. Sans parler du téléphone qui était placé dans une pièce de la maison et qui maintenant se place au niveau du corps, le plus proche possible, n'est-ce pas, pour être là 24 heures sur 24. Et on a ces distracteurs qui sont là en train de dire, regarde-moi, écoute-moi, tourne-toi vers moi. Et vous allez dire, mais il n'y a rien de mauvais. C'est ça le problème, c'est que bien sûr, on cherche, Seigneur, est-ce que ça te déplaît? On ne dit pas, Seigneur, est-ce que ça te plaît? On dit, est-ce que ça te déplaît? Et si ça ne te déplaît pas, alors je peux le faire. Mais malheureusement, on est dans une perspective négative, n'est-ce pas? Au lieu d'être dans une perspective positive. Seigneur, je veux faire ce qui te plaît. C'est pas seulement une question de ne pas faire ce qui te déplaît, mais faire ce qui te plaît. Et on est pris, notre attention est prise. Et il y a quelque chose qui fait que ça devient de la dépendance également, puisque ça produit quelque chose au niveau du cerveau qui fait du bien, qui soulage quand on recherche de l'information, quand on apprend des choses nouvelles sur quelque chose. Et ça devient après un besoin du cerveau d'avoir ça en permanence. Voilà comment une société se détourne totalement même de la notion de ce que c'est que la spiritualité. Voilà comment des millions de personnes, tout un peuple peut ignorer totalement ce que c'est la communion avec Dieu. Ce qui fait que dans les églises, de plus en plus, il y a des gens qui se disent convertis, qui se font baptiser, qui n'ont jamais connu un seul moment de leur vie de communion avec Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est. Tout simplement, ils ont eu l'information, pas par Internet, mais en venant peut-être dans une église. Ils ont reçu cette information, ils ont dit « ça a l'air de tenir la route ». On peut réussir aussi à vous convaincre de telle et telle chose, de tel et tel point de vue, que c'est plus exact de croire ainsi les choses que de croire d'une autre façon. Et ces gens adhèrent. Ils disent « oui, ça me paraît bien » et puis en plus, il y a une ambiance, c'est sympa. Il y a des églises aussi où vous allez, et c'est vrai, je dis ça avec un grand respect parce que c'est vrai, vous allez à un concert tous les dimanches et en plus c'est gratuit. Mais c'est beau sur le plan musical. Vous avez des gens qui savent chanter de manière extraordinaire, vous avez des gens qui savent jouer de la musique de manière extraordinaire et on vient pour ça. Il y a une ambiance extraordinaire, une exaltation extraordinaire et les gens sont pris dans le système et puis ça leur fait du bien. Et ils disent « alors moi je veux me convertir parce que ça je trouve c'est bien ». On est loin de l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça s'appelle le monde. Ça s'appelle les plaisirs charnels qui ne sont pas tous mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la musique. C'est pas mauvais d'aimer entendre des gens qui chantent bien, qui savent faire des choses extraordinaires au niveau de leur voix, au niveau des instruments, etc. Mais ce qui est mauvais, c'est quand c'est ça qui dirige nos vies, n'est-ce pas? Et quand on dit c'est ça qui est Dieu. Voilà ma relation avec Dieu. On n'est pas dans l'évangile. L'évangile, c'est dénué de tout artifice, de tout côté spectaculaire. Quand une église annonce qu'ils vont prier pour les malades et que les malades seront guéris, méfiez-vous. Parce que Jésus ne annonçait pas qu'il allait guérir les malades, il les guérissait. Et il disait, taisez-vous, ne le dites pas. Dans la plupart des cas, peut-être pas toujours, mais dans beaucoup de cas, il le disait. Il ne cherchait pas à faire des prodiges, on lui a dit, mais fais un miracle, descends de ta croix, fais quelque chose de spectaculaire. Fais quelque chose pour convaincre, pour nous montrer, envoie un signe du ciel. Et vous savez que vous, si vous aviez le pouvoir, Jésus pouvait le faire. Eh bien, si vous aviez le pouvoir de faire quelque chose et on vous défie là-dessus, moi j'aurais craqué, quoi. Mais voilà, je vais vous prouver, vous allez voir. Jésus n'a rien fait. Parce que ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas du spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose de parfait. Il y a de plus en plus maintenant d'églises, et je ne juge pas là-dessus non plus, c'est la pression de la société qui fait ça. Et nous, on a le privilège d'être dans la campagne, par rapport à certaines villes, et aussi d'être dans les Flandres avec la tradition pour être épargné un peu de ça, mais j'espère qu'on sera toujours épargné. Mais il y a des églises où c'est parfait le culte du dimanche, où le timing est parfait, où la personne qui parle est parfaitement habillée, admirez la différence ce matin, où la personne qui parle a préparé le texte parfaitement de ce qu'elle va dire, et il y a le tout sur l'écran aussi, tout est organisé. Mais où est l'évangile? Et on est en train de perdre l'évangile dans notre société au point que je pense que l'évangile va disparaître. Elle va résider seulement chez certains individus. Et ces individus seront ceux qui auront résisté et ceux qui auront gardé le miroir, leur vie tournée vers Dieu. Ça voudra dire probablement être totalement différent des autres. Ça voudra dire probablement être totalement marginal. Mais ça voudra dire qu'on a pu conserver cette communion, ce moment avec le Seigneur tous les jours, quotidiennement. Et s'il n'y a pas cette communion, ce moment, comme a dit Emmanuel tout à l'heure, ce moment où vraiment on cherche la présence de Dieu, soit dans sa parole, soit dans la prière, eh bien, on ne peut pas être transformé à son image, de gloire en gloire, comme il est question là, dans la deuxième épître de Corinthiens. On ne pourra pas être l'image de Dieu, ça n'est pas possible. Les gens qui vont aller dans ce genre d'église que j'ai mentionné tout à l'heure, tous les dimanches, ils ne sont pas transformés de gloire en gloire. Ils sont transformés par le groupe. Ça veut dire qu'ils vont changer leur habillement, ils vont changer leur goût musical, leur style musical, ils vont changer leur langage éventuellement, ils vont changer leur comportement. Au lieu le dimanche matin de rester allongé dans le lit, ils sont dans une salle et si les gens lèvent les mains, ils vont lever les mains. Si les gens disent gloire à Dieu, ils vont dire gloire à Dieu. Ce n'est pas difficile. C'est le comportement qui est changé. Ce n'est pas le cœur qui est changé. Ce n'est pas la vie qui est changée. Et nous devons chacun chercher cela. Et ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui disent « Moi, aujourd'hui, je vais commencer à chercher Dieu. Je vais commencer à passer du temps dans la communion avec Dieu. » Il cherche des jeunes qui sont prêts à se mettre à genoux et de dire « Seigneur, je ne veux pas me relever, à moins que tu m'aies profondément transformé. » Ne le dites surtout pas si vous avez l'intention de vous relever. Vous restez, si vous avez dit ça, vous restez aussi longtemps que vous, il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Mais c'est ça que Dieu cherche, il en trouve. Sur la terre, il y en a tous les jours, il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Mais ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Angleterre qu'on les trouve. Ils sont rares. C'est dans des pays où il n'y a rien d'autre. Où les gens sont tellement touchés par la grâce parce qu'il n'y a pas de distracteur. Et le miroir est tourné vers Dieu, il reste tourné vers Dieu, au lieu d'être tourné vers les distractions qui se présentent. Mais si vous voulez changer le cours même de votre société, eh bien c'est en faisant ça. Ce n'est pas en apprenant à bien prêcher. Ce n'est pas en disant, voilà, je vais faire un effort d'évangéliser un peu plus autour de moi. C'est une très bonne chose, c'est nécessaire, c'est un enseignement. Mais le témoignage, c'est d'être d'abord l'image de Dieu, l'image de Christ sur la terre. C'est ça le témoignage. Si vous êtes tourné vers autre chose, que vous reflétez autre chose et que vous avez appris à dire un discours pour essayer de convaincre les gens à vous convertir, ils vont dire convertir à quoi ? Comme je dis souvent, on dit, voilà, il faut évangéliser les jeunes, il faut trouver la musique qui les branche, qui les attire. Il faut que les paroles soient pas trop claires, parce que ça va les choquer, ça va les bloquer là. Ils vont dire non tout de suite. Il faut être comme eux. Et on va leur dire, soyez différents, soyez comme nous, et on est comme vous. Enfin, non, soyez pas différents, soyez comme vous êtes. C'est quoi la conversion si c'est ça? La conversion, c'est le changement. Et ce qui touche, ce n'est pas ce qui est pareil, c'est ce qui est différent. Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on apporte au monde quelque chose de différent, quelque chose que le monde ne connaît pas et dont le monde a désespérément besoin? Et c'est ça qu'il faut. Ce n'est pas en se conformant au monde, c'est en étant le plus différent possible par le Saint-Esprit, par ce miroir tourné vers Dieu qui va refléter l'image de Dieu. C'est ça qui touche. Ce qui touche même des jeunes qui ont soif de spiritualité, c'est de voir des gens qui ont une vie droite, qui ont une vie sainte, une vie pure, une vie consacrée à Dieu. C'est ça qui les interpelle. Oh, certains vont se moquer, mais parmi ceux qui se moqueront, il y en aura un ou une qui va retenir quelque chose. Et qui va dire oui, mais comment ils peuvent être comme ça? Comment est-ce possible d'être comme cela? Et c'est ça que Dieu veut, qu'il y ait du résultat ou qu'il n'y en ait pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit comme un miroir qui reflète la personne de Jésus-Christ sur cette terre. C'est seulement comme ça qu'on peut envisager ce qu'on doit faire dans 15 jours. C'est seulement ainsi que ça doit être. C'est d'être juste présent, prêt et ouvert. Parce qu'un miroir qui est voilé, un miroir qui n'est pas présent ne reflète rien, n'est-ce pas? Mais quand les gens vont passer, quand les gens passent près de vous, est-ce qu'ils, déjà en voyant votre visage, ils disent, il y a quelque chose? Vous savez que dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est question du visage de Moïse qui reflétait la gloire de Dieu parce qu'il avait vu la loi. Il avait vu Dieu qui a écrit sur les tables de la loi de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul dit que c'était glorieux et il dit combien ça devrait être encore plus glorieux maintenant qu'on est sous la nouvelle alliance, que la loi est écrite dans les cœurs. Qu'est-ce que le monde va voir? Quand il va voir, quand il vous regarde au niveau des comportements, est-ce qu'il va dire, mais voilà, c'est, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et quelquefois, les gens, quand ils évangélisent, ils disent, vous savez, on n'est pas différent des autres, hein, on est comme vous, on est, non, on est différent, n'est-ce pas? On est différent. Quelquefois, les gens, quand ils évangélisent, ils essaient de défendre le fait qu'on n'est pas fou. Mais si on est fou, si on n'est pas fou, on n'est pas chrétien. Parce que c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc si on vous dit que vous êtes fou, vous devez bénir la personne qui vous dit ça. Vous devrez avoir une joie dans le cœur, Seigneur, merci, parce que j'ai été qualifié de fou. Quel honneur d'avoir été reconnu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon, un bon signe chez vous, si on vous a dit. Mais si on vous reconnaît comme sage, comme quelqu'un de raisonnable, eh bien, c'est peut-être que quelque chose qui manque, n'est-ce pas? Donc voilà, le premier aspect, c'est le fait d'être un miroir qui reflète parfaitement. Et le monde qui ne voit pas Jésus-Christ, qui ne sait pas ce qui est vrai, quand on a un mormon qui vient et qui vient vous dire, voilà, moi, c'est la vérité, et dans mon église, on prêche la vérité, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il entend, il dit, d'accord, il va un peu plus loin, il trouve un témoin de Jéhovah qui lui dit, non, c'est nous qui avons la vérité. Et ils sont costauds hein, pour essayer de démontrer que c'est la vérité. Hein. Ensuite, il trouve un évangélique et lui dit, c'est nous qui avons la vérité. Mais comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et ce, vous n'aurez pas besoin de dire c'est nous qui avons la vérité, il ne faut d'ailleurs pas le dire. Ils doivent dire, mais je vois que vous avez la vérité. Parce que c'est vous, c'est là, c'est vous, c'est devant moi, la vérité est devant moi. La vérité, c'est que c'est impossible de vivre comme vous sur la terre. La vérité, c'est impossible d'avoir un visage qui reflète la paix, la sérénité, la joie, la tempérance, la fidélité, la douceur. Et c'est ça que je vois sur le visage. C'est donc là la vérité. Et ils vont vous dire dans quelle église vous allez. Parce que si vous allez dans cette église, il y a la vérité dans cette église. Même s'il n'y a que vous dans cette église, il y a la vérité dans cette église. La vérité n'est pas dans l'enseignement. La vérité, elle est dans les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, il nous est dit que la parole a été faite chair et elle est venue parmi nous. Et ensuite, l'apôtre Jean passe de la parole à la lumière. Et il dit que la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Traduit littéralement du grec, il semblerait que les ténèbres n'ont pas été vaincues. Mais c'est frappant parce que la lumière vainc les ténèbres forcément. Parce que les ténèbres n'existent pas quand il y a la lumière, ou se définissent par l'absence de lumière précisément. Mais ici, Jésus est venu dans le monde et cette lumière qui était destinée à ceux qui l'ont reçue, eh bien, elle éclaire tout homme, il est dit. C'est dans Jean chapitre 1, elle éclaire tout homme, mais il y en a qui ne l'ont pas reçue. Mais si vous recevez sa lumière et vous êtes exposé à sa lumière, et si le Seigneur vous transforme de gloire en gloire, vous serez un miroir qui va refléter sa lumière dans le monde. Parce que vous l'avez reçue et vous avez renvoyé cette lumière. Et c'est ça que Dieu cherche, des hommes et des femmes. Qui est-ce qui peut dire, qui pourra dire, pas ici, mais en rentrant chez vous, et à demain matin, quand le réveil sonne, dire, Seigneur, voilà, moi, c'est aujourd'hui, désormais, je voudrais, ne dites pas je vais, parce que le vœu des insensés est quelque chose dont Dieu a horreur. Si on dit je vais faire ça et on ne le fait pas, c'est quelque chose de grave. Mais je veux, Seigneur, être tourné vers toi pour recevoir ta lumière, pour que ta lumière pénètre dans ma vie, pour que je puisse refléter ta lumière. Que aujourd'hui, chaque personne qui me voit puisse voir ta personne, puisse voir qui tu es, sans lire l'évangile. Si lire l'évangile, ça prend du temps. Et lire l'évangile, il faut prendre la décision de lire l'évangile. Les gens, ils ne savent pas que c'est important de lire l'Évangile. Mais il faut qu'ils puissent commencer à lire en vous voyant, n'est-ce pas? Et ça, c'est seulement si vous êtes en communion avec Christ et si Christ est en vous. Dans Jean chapitre 5, vous lirez Jean chapitre 5 aussi, pas seulement Jean chapitre 1, pas seulement de l'épître, de la deuxième épître aux Corinthiens, mais aussi Jean chapitre 5. Jésus parle de trois personnes qui rendent témoignage de lui. Et si vous avez Jésus en vous, alors vous avez trois qui rendent témoignage. Et dans Jean chapitre 5, il parle de Jean-Baptiste encore. Il est question de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1. Il dit, dans Jean chapitre 1, il est dit qu'il n'était pas la lumière. Vous remarquerez que dans le serment sur la montagne, Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Mais il a dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Et dans Jean chapitre 5, il dit que Jean-Baptiste était une lampe qui a été allumée, qui a brûlé pour un peu de temps. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et Jésus a dit, et il a présenté Jésus comme étant la parole. Mais c'est ça le miroir. C'est d'être la voix de la parole. Et c'est d'être la lampe de la lumière. Celui qui transmet, ou le miroir de la lumière. Celui qui transmet. Vous ne serez pas la parole, mais vous serez la voix qui porte la parole. C'est Jésus qui est la parole, c'est pas vous. Vous êtes la voix qui porte la parole en vous. Vous êtes la lampe qui porte la lumière et qui devient la lumière du monde. N'est-ce pas? Eh bien, Jésus a dit qu'il y a trois qui rendent témoignage de lui. Il a dit, c'est quelqu'un de plus grand que Jean. Oui, Jean a rendu témoignage de moi. Jean-Baptiste n'a pas rendu témoignage de vous. J'ai bien lu, j'ai regardé. Non, il n'a pas mentionné votre nom. Il ne vous connaissait pas. Sinon, il l'aurait fait, hein, probablement. Mais il ne connaissait pas. Donc, vous n'avez pas le témoignage de Jean. Mais est-ce que vous avez les trois autres témoignages? Le premier témoignage que Jésus a, il dit, ce sont mes œuvres. Mes œuvres témoignent de moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est intéressant de voir que Jésus a dit que, et que Jean a écrit aussi, que Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière. Et Jésus parle ici de trois personnes qui rendent témoignage de lui. Rendre témoignage à la lumière, en grec c'est péri qui est utilisé, donc ça ne devrait pas être à, ça devrait être autour de la lumière. Difficile à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais rendre témoignage d'eux, ça je comprends. Et Jésus, dans Jean chapitre 5, parle de trois qui rendent témoignage de lui. Premièrement, ses œuvres. Et on a cette notion des œuvres qui est une notion humaniste. C'est-à-dire faire des œuvres, c'est s'occuper des pauvres, c'est être dans une association caritative. Mais ça peut ne pas être faire des œuvres du tout. Les œuvres, c'est les comportements. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, vous verrez souvent que les œuvres ont quelque chose de plus général que faire des œuvres qui sont des bonnes actions. C'est les comportements. Mes comportements, on n'utilisait pas ce terme beaucoup à l'époque, mes comportements témoignent de moi. Donc, si Jésus est en vous, si vous êtes un miroir orienté vers Jésus, vos comportements témoignent de Jésus. C'est simple l'évangile. Ça veut dire que tous les jours, ce que vous faites à chaque instant témoigne de Jésus. Ça veut dire que les paroles qui sortent de votre bouche sont celles que Jésus aurait sorties. Ça condamne beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on reste sous la condamnation. On dit, oh, il a donné un message de condamnation, ça me décourage. Alors que c'est une exhortation. C'est-à-dire, c'est un aiguillon. C'est quelque chose qui stimule pour dire, Seigneur, moi, je ne veux pas rester dans l'état dans lequel je suis. Parce que je constate que mon miroir est orienté, le miroir que je suis est orienté vers autre chose. Parce que ce qui sort de moi, ce que je reflète, les rayons qui sortent de moi ne sont pas Jésus. C'est autre chose, les paroles qui sortent ne sont pas celles de Jésus. Vous devez d'abord le reconnaître. Les comportements, les réactions, oui, pas les comportements dans le culte. Ça, ils sont tous bons. Alors là, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est à cause des autres. C'est à cause des autres. Il y a une régulation du vocabulaire, du langage, même de l'intonation de la voix dans certains cas. C'est très intéressant. Mon père disait que dans certaines églises en Angleterre, à cause du réveil au Pays de Galles, les prédicateurs avaient pris l'accent gallois, même quand ils n'étaient pas gallois. Et c'est frappant, c'est pas une mauvaise chose. Mais vous voyez, c'est, si vous voulez, on n'est pas plus spirituel si on a l'accent gallois que si on ne l'a pas. Mais ça veut dire que c'est le groupe qui influence même l'intonation de la voix, même l'accent qu'on peut avoir. C'est pas ça que je parle. C'est quelles sont nos réactions. Parce que les réactions, on n'a pas le temps de les contrôler. Ça se voit sur le visage. Il y a des paroles qui sortent pas, mais le visage et les yeux ont tout dit. Il n'y a pas besoin que la parole sorte. C'est quelles sont nos, quelle est notre attitude vis-à-vis des frères et des sœurs. Jésus disait, mes œuvres témoignent de moi. Ce que je fais, ça témoigne de moi. Et dans les églises, quelquefois, on va se réunir en disant, Seigneur, nous voudrions voir des miracles. Nous voudrions voir les malades guéris. On voudrait voir des choses extraordinaires. On voudrait voir un réveil. On voudrait que l'église soit remplie, 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 remplie. Mais on ne veut pas voir la chose qui est nécessaire au préalable. À quoi ça sert d'avoir des malades guéris qui seront en bonne santé pour continuer à pécher? Qui seront en bonne santé pour être devant le peuple, devant le monde, pour dire, admirez le contre-exemple que je suis. Je vous prêche l'évangile, mais je n'ai rien connu ni vécu de l'évangile. On doit d'abord chercher Dieu. Mon père me racontait une histoire quand j'étais enfant. Il connaissait quelqu'un dont l'enfant était tombé malade et ils ont prié pour cet enfant et miraculeusement il a été guéri. Mais les parents ont intercédé. Plus tard, cet enfant est devenu alcoolique en devenant adulte. Et les parents n'ont jamais intercédé pour qu'il soit sauvé. Voyez le drame. Faut d'abord, il faut prier pour la guérison, mais il faut d'abord chercher ce que dans l'Église, on regarde vers Jésus, qu'on reflète les comportements de Jésus, et que ce soit ça notre objectif premier, et ensuite celui de la guérison, celui de ce que Dieu donne dans sa plénitude et dans sa générosité. Donc les œuvres de Dieu, quels sont nos comportements, quelles sont nos œuvres, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous réagissons? Est-ce que ça témoigne de Jésus-Christ? En tout cas, si Jésus est en nous, nos œuvres et nos comportements vont témoigner de Jésus. Deuxième qui témoigne de Jésus-Christ, c'est le Père. Vous trouvez ça aussi dans Jean chapitre 5, vers la fin du chapitre. Le Père rend témoignage de moi, a dit Jésus. C'est extraordinaire. Parce que ça nous donne vraiment une notion de qui connaît Dieu. Le Dieu des musulmans n'est pas notre Dieu du tout. Et c'est clair. Même si c'est le Dieu, ils disent, d'Abraham. Vous allez dire, ben, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham aussi. Donc c'est le même, pas du tout. Parce que notre Dieu, il a un nom, et c'est Jésus-Christ. Et Dieu rend témoignage de Jésus-Christ parce qu'il est Jésus-Christ, parce qu'il a Jésus-Christ en lui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis en mon Père. Donc il rend témoignage de Jésus-Christ. Si vous voulez rendre témoignage dans le monde, il faut avoir Jésus-Christ en vous. Il faut que l'image de Jésus-Christ soit en vous pour que vous puissiez le refléter. Et le Père rend témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire que si quelqu'un dit, moi j'adore le Dieu de la Bible, alors il rend témoignage, le Dieu qu'il adore rend témoignage de Jésus-Christ, donc il doit adorer Jésus-Christ. Et c'est frappant de savoir que Dieu. Est-ce que Dieu rend témoignage de Jésus-Christ en vous? Voilà, c'est ça. Est-ce que quand vous êtes devant sa présence, dans sa présence, il dit, je vois le Fils, je vois mon Fils, je vois Jésus-Christ en lui, je vois Jésus-Christ en elle. C'est ça qui est un témoignage qui conforte notre expérience. On sait qu'on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Parce que c'est impossible de le faire, c'est impossible de l'être, c'est impossible de se réclamer enfant de Dieu. Il faut que Dieu nous ait donné ce pouvoir. Et il le donne que quand il a le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas le témoignage des hommes qui fait qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas l'étiquette qu'on donne à certaines personnes en disant « voilà, on va reconnaître que tu es chrétien ». Il y avait quelqu'un dans une église qui venait, c'est pas du tout dans cette église, c'était ailleurs, quelqu'un que probablement personne connaît ici. Et c'était un homme qui était vraiment bien. Et il venait à l'église évangélique tous les matins, parce que, tous les dimanches matins, parce que sa femme était évangélique. C'était un homme remarquable, un homme respectable. Et un chrétien de l'église m'avait dit ouais, « Je dois toujours faire un effort pour me rappeler qu'il n'est pas au Seigneur. » Parce qu'il a tellement l'air d'être au Seigneur. Le témoignage des hommes, ce n'est pas le témoignage de Dieu nécessairement. Et c'est le témoignage de Dieu que nous avons. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit « Oui, je sais que tu es mon enfant. » Est-ce que tu l'as entendu, ça? Est-ce que tu peux dire « Oui, je sais. Oui, je sais que je suis enfant de Dieu. » Pas parce qu'il y a une logique mathématique en disant « J'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus, ceci, donc je prends ce verset-là et celui-là, et l'adjonction des deux versets fait que j'ai le droit de dire que je suis enfant de Dieu. » Non. Si tu es enfant de Dieu, ça se voit. Se voit dans tes comportements, se voit sur ton visage, se te voit dans tout ce que tu es. On peut reconnaître les enfants, n'est-ce pas? On peut reconnaître les parents en voyant les enfants. Le Père, donc les œuvres rendent témoignage de Jésus. Le Père rend témoignage de Jésus. Et ensuite, il dit dans Jean chapitre 5, les Écritures rendent témoignage de moi. Les Écritures, c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu, vous l'avez ici. Mais bien sûr, Jésus est la parole. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'avec le miroir, on confond, quoi. Les enfants doivent apprendre que ce n'est pas eux dans le miroir. Les animaux aussi doivent apprendre que ce n'est pas eux. Mais c'est eux. On va dire, c'est moi, c'est un tel dans le miroir. Vous êtes d'accord? Mais ce n'est pas vous. C'est vous, mais ce n'est pas vous. Ça veut dire que quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est Jésus que vous reflétez, mais vous n'êtes pas Jésus. Mais vous êtes Jésus sur la terre. Parce que Jésus n'est plus là et il a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est comme le miroir, n'est-ce pas, quand le reflet est parfait. Dans 2 Corinthiens 3, il finit en disant, nous contemplant comme au travers d'un miroir, et c'est comme ça que le monde voit les choses. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu directement, il voit au travers d'un miroir. Qui est son miroir sur cette terre? Qui est-ce qui veut l'être? Est-ce que vous allez rentrer chez vous et dire, Seigneur, c'est sincère. Je voudrais être un miroir tourné vers toi qui reflète dans ce monde. Et c'est votre vie qui va être transformée. Mais c'est la vie des autres qui va être transformée aussi, parce qu'ils vont pouvoir contempler la gloire de Dieu au travers d'un miroir qui est votre personne. Le troisième, c'est donc les Écritures. Vous devez être imprégné de la parole de Dieu. C'est pas juste lire. C'est être imprégné de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand vous lisez le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, c'est pas de dire « Ah oui, mais ça c'est trop dur. Oh, c'est pas possible, ça. Parce que quand vous dites ça, vous êtes en train de dire, ah oui, mais non, il y a un autre évangile. Cet évangile, c'est la raison. Et parce que je suis français raisonnable et rationnel, je déclare que contrairement à ce que Dieu a dit, le sermon sur la montagne, ce n'est pas pour les hommes et les femmes. Il y a une garantie de ça, c'est que jamais vous n'allez vivre le sermon sur la montagne, si vous dites ça. Le sermon sur la montagne a pour fonction de faire plier les genoux et de dire « Seigneur, fais-moi vivre ». On dit « Ah oui, mais on est humain ». Jésus a adressé le sermon sur la montagne à des humains. Il n'a pas fait dans le ciel à des gens qui étaient là pour l'adorer. Il n'a pas donné le sermon sur la montagne pour les saints qui se prosternent devant lui dans le ciel. Il l'a donné pour les hommes et les femmes sur la terre. Ça veut dire que le sermon sur la montagne, c'est possible. Le sermon sur la montagne, c'est aimer vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est de comprendre que le péché, ce n'est pas les actes, mais que le péché, enfin, que ce n'est pas les actes seulement, n'est-ce pas? Que les actes ne sont que l'aboutissement visible de quelque chose qui est beaucoup plus grave à l'intérieur. Et que ce n'est pas en modifiant les comportements, ce n'est pas en modifiant les œuvres que l'on est sauvé. La théologie catholique est totalement dans l'erreur à ce niveau-là. Parce que dans la croyance que les œuvres peuvent amener le salut, il y a une contradiction avec le sermon sur la montagne. Et il y a une contradiction avec ce qu'on a lu ici. Les œuvres témoignent de Dieu. Mais il faut qu'il y ait Dieu, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le témoignage. Les œuvres témoignent de Jésus-Christ. Mais il faut qu'il y ait Jésus-Christ pour qu'il y ait le témoignage. Il faut d'abord le salut pour qu'il y ait les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas sauver, il faut que ce soit Jésus qui sauve. Et les œuvres doivent être là en conséquence logique. Les Écritures, est-ce que, et c'est l'autre aspect, mais je vais passer très très vite là-dessus, l'autre aspect de 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, vous êtes une lettre écrite par notre ministère. Et c'est le Saint-Esprit qui écrit cette lettre au travers du ministère de Paul. Quelles sont les écritures qui sont écrites sur votre corps? Vous savez que de plus en plus maintenant les jeunes écrivent. Les filles sont de plus en plus tatouées. Certaines personnes n'ont plus de place sur le corps pour écrire un message. Parce que le corps est en train de crier. Je veux exprimer quelque chose. Le corps exprime quelque chose. Et parce qu'il y a cette soif d'exprimer quelque chose au monde, et parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont les miroirs de Christ, pour leur dire, mais oui, votre corps peut exprimer la gloire de Dieu. Oui, ton corps peut exprimer la puissance de Dieu. Ton corps peut exprimer le Saint-Esprit de Dieu sur la terre. Alors le diable vient et leur dit, j'ai un message à communiquer au monde. Mets rapidement ce message sur ton corps. C'est important. Ils le mettent et après ils prennent conscience qu'ils ne pourront plus jamais l'enlever. Mais s'il y avait des chrétiens qui sont des miroirs de Jésus-Christ, qui montrent par leur corps qu'ils communiquent Dieu, la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ils font resplendir la gloire de Dieu autour d'eux. Et que leur corps exprime tout cela sans écriture, eh bien ça parlerait au monde. Et les gens diraient, je voudrais pouvoir communiquer le même message que toi. Je voudrais pouvoir dire la même chose que toi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce que notre corps n'exprime rien? Est-ce qu'il exprime le désespoir? le vide intérieur, l'absence de message. Où est-ce qu'il exprime la gloire de Dieu, la volonté de Dieu? Jésus a dit, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que les Écritures, c'est que la parole de Dieu se répande. Au commencement, c'était la parole, et cette parole était la lumière, parce que la lumière avait la vie en elle, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole, cette vie et cette lumière sont intimement liées parce que c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus-Christ qu'on reflète ce matin? Que Dieu fasse son œuvre en nous et que nous soyons transformés, que l'Église soit transformée en résultat des transformations individuelles. Amen.